Oui, bonjour. Je vous appelais là pour vous signaler à tous le projet de loi DADVSI qui risque de passer là, juste avant Noël. Donc en fait, c'était pour vous signaler. Donc c'est un projet de loi concernant le piratage. Mais ce projet de loi, en fait, remet en cause le droit à la copie privée et pas mal de droits d'auteur. Qui remet en cause pas mal de liberté. Si vous êtes interpellé par ce message, je vous conseille d'aller voir sur le site de leucd.info, www.eucd.info. Il y a toutes les informations concernant cette loi et aussi une pétition. Donc voilà, c'est une de nos libertés qui s'en va. Voilà. Bon, ben bonne journée.
Oui, bonjour tout le monde, je suis un petit peu ému. Il est 9h en France et on est en train de tuer quelqu'un là-bas en Californie après 25 ans de prison. Alors pour lui, on peut plus rien faire, mais au moins que les Français boycottent les films de ce gros con de Schwarzenegger et ça prouvera qu'on est quand même plus intelligent que lui. Allez, salut.
Voilà, c'est Hervé de Lyon. Je vous appelle au nom du collectif du Rhône contre l'OMC pour vous indiquer deux petites soirées de décryptage de ces accords. Une première le 14 décembre de l'autre côté du pont, 25 cours Gambetta, Lyon 3 à 20h. Et on discutera à partir du film Le Bien Commun, l'assaut final de Carole Poliquin. Et puis surtout le jeudi 15 décembre de 18h à 22h à la Bourse du Travail, place Guichard, Lyon 3. Un petit 4 heures contre l'OMC avec un apéro forum, une présentation des enjeux de la conférence de Hong Kong par les porte-parole du collectif, et puis la projection de la guerre des cotons de Jean-Michel Rodrigo, pardon, en présence de l'auteur. Voilà, je vous remercie.
En écoutant ton émission ce lundi 12 décembre, et le gars qui exhortait ses employés avec des « work hard, play hard », je pensais à La ferme des animaux, tu sais, de George Orwell, que je viens de relire. Et ce gars me faisait penser à Napoléon, non pas l'empereur corse des Français d'il y a un certain temps, mais plutôt au chef Vera, à celui qui était son porte-voix, Brille-Babil, qui exhortait quant à lui les naïfs animaux de la ferme, comme Malabar le cheval, qui toujours voulait travailler plus dur en réponse à de nouvelles restrictions aussi injustes qu'ignobles. Finalement, la tyrannie des porcs s'est avérée, si ce n'est pire, au moins pareille à celle des hommes. Le problème, c'est que l'homme a de multiples facettes, et que parmi nous se trouvent ceux qui tiennent à la place des porcs, comme ce gars qu'on a vraiment envie de baffer avec ses work hard, play hard. Tu vois, Daniel, ce mec-là, j'aurais bien vu argumenter à profusion les avantages du régime nazi, mais ce n'est là qu'une vision de mon esprit que j'assume. Merci, amitié. Salut.
Très peu de messages aujourd'hui parce que je suis très très loin. Mamoudzou, connaissez-vous Mamoudzou? C'est où Mamoudzou? Eh bien Mamoudzou, c'est en France. C'est à Mayotte. Et oui, Mayotte, c'est la France. Presque complètement la France. Presque entièrement la France, Mayotte. Et qu'est-ce que je fais à Mayotte? Eh bien, je viens vérifier les bienfaits de la colonisation. L'aspect positif de la colonisation, je viens essayer de, avec mon ami Gil, essayer de le voir en chair et en os ici à Mayotte. Une histoire très compliquée entre cette île qui reste des Comores. Les Comores ne sont plus françaises et Mayotte l'est toujours. Et ici, eh bien, se concentrent à peu près tous les problèmes actuels. Les effets, effectivement, de la misère, tout un tas de problèmes que nous allons essayer de découvrir et de comprendre ici. Épuisés, évidemment, que nous sommes après un très, très long voyage. Aujourd'hui, deuxième volet de Work Hard, Play Hard. Ça vous a plu, la comparaison avec Orwell, effectivement, avec La ferme des animaux d'Orwell, est excellente. Voilà la suite.
Alors les Anglais disent « work hard, play hard », travaille comme un fou et éclate-toi après. Play hard. Play hard. Play hard. Play hard.
Ces gens-là ne sont pas l'élite. Il manque, je pense qu'il manque un petit peu tout bêtement d'ouverture d'esprit sur qu'est-ce qui pourrait être possible d'autre. Ils ont été préformatés dans leur école, ils sont reformatés dans leur cabinet. Dans ce genre de boulot, on nous apprend pas à avoir un regard critique sur ce qu'on fait ou sur le système auquel on participe.
Que voulez-vous que je fasse ?
Des tâches tellement sérieuses.
Crevez tous !
Jean-Pierre Graffin, 45 ans, chez Le Verre depuis 20 ans. J'ai commencé comme ouvrier de production et j'ai terminé en fin de carrière, enfin si on peut dire en fin de carrière, avant que l'usine ferme, j'ai terminé au labo. Tout compte fait, ben, quand je vois dans mon secteur, enfin dans mon quartier où j'habite, des gens qui sont défavorisés, au début je disais tiens, je crois que maintenant ben, je vais devenir comme eux, ce sera vite fait. Hein.
Le jour où on m'a dit, tu vois où on peut raboter les dépenses de recherche et d'investissement, tu vois où on peut raboter les dépenses en personnel, les dépenses d'investissement, tout ça pour pouvoir enrichir quelques personnes, là j'ai bien compris que le boulot qu'on me faisait faire allait être payé en fin de course par des gens qui n'allaient pas avoir d'issue de secours.
Bernard Schuster, 52 ans. 30 ans donc de travail ici dans cette usine, à la recherche d'un emploi, si tant est qu'on peut retrouver un emploi effectivement à 52 ans. Ma qualification c'est quand même chimiste et aujourd'hui dans la chimie il n'y a plus grand chose dans la région. Donc il n'y a pratiquement aucun espoir de retrouver du travail dans la région.
Ah ah, je vais bien les diriger. Crevez tous.
Bon, le but, comme on dit, c'est tu montes ou tu sors. C'est ce qui se dit dans le milieu, c'est up or out. Le principe, c'est d'être performant. Donc les gens qui sont pas bons n'intéressent pas l'entreprise.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah bah si j'y suis avec Olivia Gesbert. Up or out.
Flight number 2, arriving from
New York. Aubépine, là, on est dans ce qu'on appelle le triangle doré ou le triangle d'or, c'est-à-dire on est sur les Champs-Élysées et à deux pas de là où tu travaillais, on est devant le Sir Winston. C'est un pub qui fait restaurant aussi. Plutôt élégant, ambiance club anglais. C'est sympa.
Voilà, on retrouve Aubépine aujourd'hui. Je rappelle qu'Aubépine a 32 ans, qu'elle a fait des études supérieures, Sciences Po, sociologie, etc., etc. Elle a travaillé dans des cabinets de conseil, dont certains situés dans le quartier où nous sommes, c'est-à-dire autour des Champs-Élysées, à Paris. Elle n'a pas travaillé, elle, dans ce qu'on appelait des Big Five, ou maintenant on dit Big Four, c'est-à-dire les grosses boîtes de conseils et d'audit, KPMG, Deloitte, Price, Capgemini, tout ça, elle n'a pas travaillé là-dedans. Elle n'a pas travaillé non plus chez Andersen, puisque Andersen a coulé, on a évoqué hier cette énorme boîte, énormément compromise lors de la chute d'Enron, et qui a chuté avec Enron, on se souvient, de cet épisode. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de savoir avec Olivia? C'est comment on vit, puisque on nous l'a dit hier, il s'agit bel et bien d'un visage invisible du capitalisme que celui du consulting. Alors, beaucoup d'auditeurs ont tenu à nous faire savoir, attention, vous mélangez tout, il y a les petits et les gros. Eh ben, d'accord, là, on est chez les gros, on s'occupera des petits plus tard, effectivement. Là, ce sont des gens qui ont travaillé dans des grosses boîtes et qui nous disent voilà, on est effectivement ce monde de la des consultants, ce monde du conseil, ce monde de l'audit, même si ce sont, j'ai bien compris, j'ai fini par comprendre deux choses différentes, c'est un monde à la fois policé et violent qui correspond tout à fait au film de Jean-Marc Moutou, au titre du film de Jean-Marc Moutou, Violence des échanges en milieu tempéré. On est ici avec des tueurs doux, avec des cyniques conformistes, avec des bourgeois compassionnels, avec des bobos éventuellement radicaux chics. C'est tout à fait possible, tout ça peut tout à fait cohabiter du moment que la machine marche. Ce qu'on a appris quand même, on s'en doutait un petit peu, c'est que c'est un univers qui est fermé, qui est caché, qui est invisible sur l'irrémédiable, sur il n'y a pas d'alternative, sur c'est comme ça et pas autrement, sur le on n'y peut rien, sur le fameux naturellement célèbre maintenant. Eh ben non, il y a des visages, il y a des vies, il y a des gens, et ils parlent jusqu'à 18h dans la base si j'y suis. Up or out.
Intriguée par ce mode de vie où on travaillait très tard le soir, on travaillait le week-end, on se baladait toujours avec un ordinateur portable au bout du bras. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils travaillent autant? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Qu'est-ce qui se fait dans ces, qu'est-ce qui se fabrique dans ces boîtes-là, quoi? C'est ça qui m'intéressait. Et puis, il y a aussi, autre chose qui est souvent mis en avant par les consultants, c'est que très jeune, on est amené à côtoyer des gens très haut placés. Alors ça les excite terriblement, parce qu'ils ont 30 ans, 35 ans, et ils parlent avec le PDG de vraiment de grosses boîtes. Juste pour donner un exemple, je recevais des cartes de vœux de nouvelle année de du DRH de telle boîte, du PDG de telle boîte. C'est, il suffisait que je les ai vus une fois et hop, je reçois une carte de vœux signée de telle personne très très haut placée dans une très grande boîte. Donc, des gens qui ont beaucoup de pouvoir, qui dont les décisions affectent énormément de gens, qui manipulent beaucoup d'argent, qui sont mêlés à des décisions politiques. C'est marrant de se rendre compte qu'on est aussi proches, quoi, qu'ils sont pas très loin finalement. Il suffit de monter un étage et puis peut-être qu'on va se retrouver à boire un café avec eux à un buffet de l'entreprise, quoi. C'est rigolo. À l'époque, si j'essaye de me souvenir un peu ce que j'avais dans la tête, je pensais que ça serait exaltant de participer à des prises de décisions comme ça, qui seraient très, des décisions qui seraient très difficiles à prendre, mais qu'on prendrait quand même, et on verrait qu'on s'était pas trompé, on serait vachement content, on vivrait des choses fortes ensemble, en équipe. Enfin, je pense que je vivais un peu dans une série américaine, quoi. Je voyais ça un peu comme ça. Moi, je vois plutôt ça comme des gens qui sont pris dans un système, des gens qui essaient de gagner leur vie du mieux qu'ils peuvent. Et qui sont sur des objectifs de statut social et de réussite matérielle, quoi.
Tu as gagné bien ta vie ?
Ah ouais, je gagnais bien ma vie, ouais. Ouais, ouais. J'ai gagné 20 000 francs net par mois. 3 198 euros, pour être exact.
Pas mal, à 27 ans, c'est pas si mal quand même pour commencer une carrière. Ceux qui la reconnaissent, ceux qui entendent ça et qui sont dans ce métier du consulting, oui, mais d'accord, mais elle est out, voilà, c'est tout simple. Elle, ça lui plaisait pas, elle était pas faite pour ça. Elle est partie et puis voilà, il y a pas d'autres problèmes que ça, voilà. Les téléréalités qui sont tellement critiquées, tous ces jeux du type le maillon faible ou oui chef, etc. C'est jamais qu'une version euphémisée et somme toute plaisante du vrai monde de l'entreprise, enfin au moins de ce genre d'entreprise, un monde absolument impitoyable, avec un univers impitoyable, avec des dehors absolument cool, sympas, décontractés, douillets, de bon goût et de la culture. Surtout, c'est le capital culturel, le capital symbolique culturel est très très important. On nous l'a dit et redit, on cite volontiers n'importe quoi, absolument n'importe quoi, du moment que ça commence par Spinoza et ça finit par Nietzsche, Sartre, qui vous voulez, vous pouvez citer, du moment qu'il y a cette profondeur de champ culturel. On ramasse tout, on avale tout, on digère absolument tout, y compris cette émission qui fait sourire, qui amuse, qui agace, qui sera peut-être vue comme un élément de critique qu'on pourra étudier, tout se récupère. Donc nous sommes en train de pisser dans un violon. Mais il y a quand même peut-être un petit peu de conscience et des gens qui ne sont pas encore tout à fait contaminés par ce cynisme ambiant ou qui ont essayé de s'en sortir. C'est le cas de Wepin, c'est le cas aussi de son camarade Olivier qui ça peut paraître un peu pornographique, est doué de conscience.
Parfois, on peut aussi avoir de vrais cas de conscience. Je me souviens avoir travaillé sur la reprise d'une grande entreprise industrielle française par un fonds d'investissement américain. On me disait, bon, vois où est-ce qu'on peut réduire les dépenses de recherche et développement, vois où on peut réduire les investissements. La masse salariale nous semble supérieure à ce que dépensent les concurrents, etc.
Et quelles conséquences il devait en tirer de tes courbes ?
Rationalisation. Ça veut dire licenciement, réduction du nombre de sites, réduction des investissements. Bon.
Ça a pris un visage humain ou pas particulièrement ?
J'obéissais à un chef, donc il fallait aussi que je rende le boulot parce que mon poste était en jeu, mais rétrospectivement, ça m'a quand même travaillé. Sur le moment, on voit des entreprises qui emploient 10 000, 100 000 personnes, qui sont uniquement des business lines, des chiffres d'activité par division, des résultats par division, des EBIT, des EBITDA, des EBIT earnings before interest and tax. C'est une réalité très matérielle, c'est la valeur de l'action. Pour un certain nombre de gens, ça, c'est une réalité tout à fait tangible. mais ce sont pas les mêmes que ceux qui se retrouvent à la chaîne et qui contrairement à ce qu'on pense dans ces milieux-là, peuvent pas changer de boulot aussi facilement. Ils ont une maison, ils ont des dettes, ils habitent à la campagne ou dans des petites villes, et ils peuvent pas passer d'un cabinet à l'autre avec des indemnités monstrueuses. Et ces sacrifices-là, il y a des gens qui vont devoir les faire pour engraisser quelques personnes qui disposent de capital à la base et qui vont maximiser. Alors, il y a plusieurs attitudes par rapport à ça. T'as des gens qui sont libéraux, un peu cyniques ou fatalistes. Bon, j'étais un peu comme ça. Bon, bah tant pis, c'est la vie. Une entreprise, c'est fait pour marcher ou pour crever. Bon, enfin, on peut être cynique par rapport à ça. Ou alors on peut intégrer des valeurs d'une bourgeoisie d'affaires assez traditionnelle, ou je dirais même traditionnaliste. On compatit, on va à la messe, on donne aux charitiers. Mais j'ai l'impression qu'il y a une troisième classe de gens maintenant qui émergent dans ces milieux. C'est des bobos simplement, qui sont à fond dans le système dans la journée, mais une fois rentrés chez eux, ils sont altermondialistes. Ils se disent... on est victime des patrons, on est des salariés, on est du côté des victimes des capitalistes. Et je trouve que cette contradiction, elle est complètement intenable. On peut pas jouer les anti-patrons d'un côté et le jour où on est dans l'isoloir, regretter, voter pour ceux qui vont protéger les ouvriers ou regretter l'écrasement des classes populaires. Alors que 70 heures par semaine, on travaille pour engraisser quelques financiers qui ont les bons coups, qui disposent du capital au départ. Mais ce qui est très intéressant, c'est que en supprimant des emplois qui sont occupés par des gens qui gagnent 50 francs de l'heure, on est quand même facturé à l'entreprise cliente 10 000 francs de l'heure. Donc une partie de la création de valeur ou de la rationalisation ou du gain, appelons-le comme on veut, finit dans des poches assez intéressées.
Tu peux très bien faire, dégraisser entre guillemets, comme on dit, une entreprise et rationaliser les coûts et te dire que tu sauves la boîte, quoi. Tu peux très bien faire ce boulot en entretenant l'illusion, ou du moins sur l'argumentation sur laquelle tu fais quelque chose de bien pour les gens. Mais je dis pas que ce discours que les gens se tiennent pour faire ce sale boulot, il est justifié, hein. Je dis juste que il est possible que les gens qui mettent en œuvre des plans sociaux se disent ça pour tenir le coup.
Un premier contact, je les sens bien. Bon, c'est pas des flèches, mais j'ai vu pire, surtout dans l'industrie. Résultat de la journée information Stuttgart, mailing à envoyer. Bon, l'important, c'est de savoir si Janson peut être rapidement mis au standard de notre client. Lui, ce qu'il veut, c'est poursuivre son expansion dans le titane et les alliages légers. Pour que ça fonctionne chez Janson, faut tout redéfinir. Baisse des coûts, gain de productivité, redéploiement commercial.
Et ça risque pas de se savoir?
Quoi?
Mais le rachat?
Alors là, c'est le fiasco. Grève, l'acheteur qui se tire et nous, on remballe. Rendez-vous Vertel Colmar le 6, pensez au dossier 5S. Bon, ça va la clim? Tu cailles pas trop?
Non, c'est bien.
Ouais, je préfère, la chaleur, ça m'endort. Non, il sait ce qu'il fait, le PDG, oh là là. Vendre sa boîte à un grand groupe, mais c'est ce qui peut lui arriver de mieux. Il a pas redressé la barre, il a pas tapé là où ça fait mal, et en plus, il empoche le pactole, alors.
Et tu penses que ça peut aller jusqu'à une restructuration?
Ah ben, les acquisitions sans compression, c'est pas monnaie courante.
Même le licenciement, ils n'ont même pas eu l'honnêteté de le dire. Franchement, aux ouvriers, il a fallu qu'on regarde la 3 pour qu'on dise qu'il y a un dépôt de bilan. Et je trouve ça honteux, honteux.
Qu'est-ce qui est marqué là?
Ici, travailler pour nourrir leur famille, les humains que Glencore a fait disparaître. Glencore, c'était une sangsue géante. Le 24 février 2003.
Pour continuer et pour réussir dans ce travail-là, il fallait afficher certaines valeurs. Et pour afficher des valeurs à moins d'être schizophrène, il faut les avoir adoptées. Et moi, ces valeurs-là, elles n'étaient pas les miennes. Et c'est pas un boulot, même si c'est un boulot qui paye relativement bien, c'est pas un boulot qu'on peut faire que pour le fric. Il faut y croire.
Croire en quoi ?
Bah, il faut croire, par exemple, que faire du profit, c'est bien, que faire plus de profit, c'est mieux. Il faut croire que le profit, c'est la solution à tous les problèmes. Il faut vivre avec le fait que, effectivement, ça résoudra aucun des problèmes très graves qu'on a aujourd'hui, quoi. Qui est le fait que 1 milliard de gens ne mangent pas à leur faim tous les jours, que le profit détruit l'environnement, que le profit détruit l'humanité parfois. Voilà, il faut pouvoir vivre avec tout ça, sans jamais se demander qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi. Sans jamais interroger qu'est-ce que c'est. C'est quoi le profit? C'est du profit financier ou c'est du profit autre chose? On veut être plus efficace, plus rentable, plus performant. Qu'est-ce que c'est qu'être plus efficace? Qu'est-ce que c'est qu'être plus performant? C'est quoi la performance? Qu'est-ce qu'on met dedans? Faut être des bons petits soldats, quoi. Faut avaler ces mots d'ordre-là et les recracher à la demande.
Je suppose que dans ce monde-là, on y met quelque chose derrière le mot profit, derrière le mot performance.
Bah oui, bien sûr. Bah oui. Ben, c'est des choses déjà qui peuvent se mesurer avec des chiffres uniquement. On réduit tout aux valeurs comptables et financières. Et surtout, on réduit tout aux intérêts des comment ça s'appelle ? Stakeholders, merci. Des actionnaires. C'est pathétique. Des actionnaires qui sont un seul intérêt parmi d'autres, qui sont des intérêts purement financiers. Et c'est au nom de ces intérêts financiers, on détruit d'autres choses. Quand on met des personnes au chômage, ça fait du déficit social, ça fait des dépressions nerveuses, ça fait des familles qui se brisent. Je sais pas, on ne replace pas ce qu'on fait dans un cadre plus global. À partir du moment où on le fait, c'est difficile de continuer à croire à ce qu'on fait dans ces boîtes-là, quoi. Et à 30 ans, je cherchais pas une planque, hein. Je voulais faire quelque chose de bien de ma vie, quoi. Ce qui m'a coûté le plus et ce qui a fait que j'ai arrêté, c'était le mensonge. Pour moi, c'était un mensonge. C'était nourrir un faux personnage. Et tu te dis, j'ai pas autre chose à faire de ma vie, quoi. Mais en tout cas, ce que je fais aujourd'hui, je sais pourquoi je le fais et je me sens pas en situation d'imposture.
Tu regrettes parfois d'être partie ou...
Non, jamais. J'ai jamais regretté. Je suis dans ma galaxie, quoi. Je suis... J'ai trouvé ma planète, alors après, il faut peut-être trouver le pays et tout ça, mais au moins, je suis pas loin de chez moi, quoi.
Voilà, du courage aux Bépines, ça a l'air de rien, mais c'est du courage. On a, pendant des années, je le disais hier, essayé de raconter ces plans sociaux, les dégâts, les victimes. Voilà, là, on retrouve des voix entendues au cours de nos reportages à Unilever, Moulinex, etc. Ça, on en a fait beaucoup. Mais c'est ceux qui sont souvent, parfois, pas toujours, mais souvent, ou qui risquent d'être obligés d'accepter d'être les exécuteurs de ces plans sociaux. Eh ben, les voilà, enfin, ils osent parler.
Le jour où on m'a dit, tu vois où on peut raboter les dépenses de recherche et d'investissement, tu vois où on peut raboter les dépenses en personnel, les dépenses d'investissement, tout ça pour pouvoir enrichir quelques personnes, là j'ai bien compris que le boulot qu'on me faisait faire allait être payé en fin de course par des gens qui n'allaient pas avoir d'issue de secours.
Ton succès à toi, finalement, allait avoir un coût social.
C'est ça, on arrive à faire commettre aux gens des actes de violence sociale en leur donnant l'appât du gain. Bon, au moins, je me dis que maintenant, je participe plus à ça. J'ai pensé après que ça me coûtait trop de servir ce système. Bon, c'était le moment où la guerre d'Irak commençait. Je savais bien que c'était une des conséquences du travail que je faisais, du système que je servais. Que ça soit la domination d'un système économique de quelques pays occidentaux. J'allais devenir esclave de la cupidité et que j'allais jamais savoir voir les choses autrement qu'en part de marché ou en termes comptables. Alors on connaît les grands patrons pour leurs salaires qui sont complètement indécents. Ce qu'on sait moins, c'est que quand on est banquier d'affaires, on peut gagner 10 millions d'euros par an. Quand on est trader dans une banque, dans une salle de marché, on peut gagner 10 millions d'euros par an. Quand on est partenaire dans un cabinet de conseil, on peut gagner 1 million d'euros par an. Quand on est avocat d'affaires, on peut gagner les mêmes sommes. Et on n'est pas exposé à la, On n'est pas exposé au regard social. C'est en ça que je dis que c'est un... C'est le visage invisible du capitalisme. Ce sont des professions qui au final, tirent parti du système, du moins pour quelques-uns, et tout le monde espère y arriver. Et qui vivent dans l'ombre, dans la discrétion. C'est un capitalisme qui est à la fois policé et violent, puisque c'est un milieu qui est trop éloigné de la réalité du plus grand monde pour prendre conscience des conséquences très dures de ces décisions. J'ai sauvé ma peau, ça me paraît évident, même si pour la stratégie patrimoniale, ben, c'est foutu. Ma peau, mon esprit souffre.
Vous êtes jeune, vous êtes moderne, vous êtes efficace, vous êtes pragmatique, vous êtes autonome, vous êtes performant, vous êtes responsable. C'est bien, continuez. Vous gardez le sens du scandale, vous allez au bureau en sandales, vous écornez vous-même votre image, vous êtes encore très rock'n'roll pour votre âge, vous êtes jeune, vous êtes moderne, c'est bien, continuez. Vous êtes oh, tellement vous êtes oh, oh vraiment vous êtes oh, infiniment vous êtes oh, absolument vous êtes oh, oh furieusement vous êtes oh. Ah, ah, mais alors, vous êtes, vous pensez, positif, vous chantez, positif, vous parlez, positif, vous respirez, positif, quand on vous dit, positif, vous répondez, positif, ben tout cela m'a l'air plutôt globalement positif, c'est bien, continuez, merci par cette barbarie douce, vous évacuez les questions, car il faut continuer la course. Et renouveler dans votre salon les mille et une cyberbrocs qui entretiennent votre hypnose et votre nostalgie des époques où il se passait quelque chose. C'est bien. Continuez.
Alors, qu'est-ce qu'il y a?
Je veux que tu me changes de mission.
Mais c'est pas un self, mon petit Philippe. Je t'ai choisi, c'est pas pour me déluger en cours de route.
Je veux pas être un coupeur de tête. Tu te rends pas compte, c'est l'enfer de les voir défiler. Tous ceux qui remplissent pas les critères. Ou une vie pas possible, qui arrivent pas à s'adapter. Parce qu'ils le sentent, ils me voient venir.
Mais qu'est-ce que tu crois? On est tous passés par là. Il faut que tu rationalises. Une entreprise tourne avec X employés, pas X plus 1. Si tu t'arrêtes sur chaque cas, tu oublies l'ensemble qui est de rendre cette boîte efficace, compétitive.
Mais il n'y aurait pas de rachat, il n'y aurait pas de plan social.
Oh, t'es très fort, t'as une sacrée maîtrise du marché. Moi, je te dis que c'est le contraire. On serait pas là, ce genre de boîte serait liquidée en moins de 2. Et alors là, c'est tout le monde dehors.
Et pourquoi tu ne demandes pas un autre junior? Il y en a plein au cabinet qui ça poserait pas de problème.
Belle mentalité. Je veux être consultant, mais je veux pas voir la réalité. C'est ça ton ambition, décortiquer des chiffres derrière un ordinateur? Tu crois que t'es là par hasard? J'ai bien vu que t'es un garçon sensible. C'est parce que cette mission est délicate que je voulais quelqu'un comme toi.
C'est peut-être parce que je suis comme ça que j'y arrive pas.
Non, c'est parce que tu te laisses impressionner par quelques mecs qui paniquent, alors que c'est inévitable, et qu'on doit être capable de leur faire face.
Je suis désolé, je peux pas y participer.
En fait, t'es une vraie mauviette. Écoute, dans ce cas, je peux rien pour toi, je te ramène à Paris. Je te remercie, tu me fous dans une sacrée merde.
Donc on est liquidé. On est liquidé.
On a l'arrêt. C'est calme. Il n'y a pas de bruit, c'est froid. Donc je suis trop jeune pour partir à la retraite. Et trop vieux pour avoir un job.
Donc on est liquidé. On est liquidé.
Mais qu'est-ce que t'en as à foutre de ces tocards? Est-ce que tu peux me le dire? C'est toi qui vas le payer cher, hein? C'est pas eux qui vont venir t'aider. Jamais, jamais. Ah, c'est la première fois que je me trompe sur un junior, alors je te remercie. Et tu réfléchis bien, parce que moi lundi j'envoie quelqu'un à ta place. Tu as compris ça? Et tu me regardes. Tu as compris?
J'aimerais que nous reprenions ensemble notre devise.
Walk out, play out.
Walk out, play out.
Walk out, play out.
Voilà, extrait du film de Jean-Marc Moutou, Violence des échanges en milieu tempéré. C'est tout à fait notre sujet du jour. Hier, on a rencontré Vincent Petitet, qui est un chercheur et qui, de l'intérieur même d'une des plus grosses entreprises d'audit et de consulting, a écrit une thèse sur communication et domination dans les organisations, analyse d'un cabinet conseil international, voilà l'intitulé, où on trouve des expressions comme généalogie de l'obéissance, institutionnalisation de la domination, orthopédie sociale, management de la docilité, mobilité infinie de l'individu et de ses ressources. Un langage très savant, très universitaire, pour dire eh bien autrement les choses qu'on vient d'entendre. La ligne principale de toutes ces interventions, c'est le profit. Il s'agit d'aller vers un maximum de profit à tout prix. Et ces petits soldats participent de ce système. Est-ce qu'ils en sont conscients?
Bien sûr, ils en sont conscients, puisque la majeure partie d'entre eux viennent d'écoles de commerce. Donc quand ils intègrent ces structures, c'est aussi pour faire du profit. Et ils en sont d'autant plus conscients que le projet comme ça de ces entreprises de conseil, c'est un projet aussi de mathématisation du réel, c'est-à-dire qu'on va tout rendre chiffrable. Chiffre d'affaires, façon de gérer le personnel, tout devient chiffrable. Donc le but du chiffre, c'est de faire plus de chiffres. Donc on est tout à fait conscient qu'on est dans une réalité où ce qui prime, c'est effectivement le profit, c'est faire des affaires, c'est s'agrandir, ce sont les fusions-acquisitions. Donc un développement comme ça de la puissance financière, comptable et économique des entreprises. En plus, on est dans une division du travail extrêmement forte, donc on n'a pas toujours conscience des conséquences finales de telle ou telle mission. Et puis, ça nous intéresse pas forcément de savoir ce que va devenir l'entreprise dans 3 ans et demi, par exemple.
Je suis un repenti, ou en tous les cas, je serai un repenti quand j'aurai changé de travail, dans le sens où j'aurai contribué à un système qui, à mon avis, est vraiment, vraiment condamnable. Je parle d'un système condamnable pour l'exclusion qu'il génère et pour la misère et la détresse qu'il génère.
Ça peut être une connaissance intellectuelle. Oui, on sait, il y a des inégalités. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? C'est comme ça que ça marche, la société. Et puis, il y en a...